quelqu'un a de l'allergie, il prend quelque chose, un anti-allergie du style Zyrtec ou Zizac, quelque chose qui vient me voir à la fin, je serais intéressé par une pilule, une gélule. Je ne sais pas si quelqu'un prend ça, je serais content. Parce que je suis pris par mon allergie et j'ai pas envie de me faire. Voilà, c'est une petite annonce personnelle. Pardon. Dans notre groupe de partage, tout à l'heure, William a proposé de résumer l'ensemble de ce qu'on a pu travailler ensemble grâce au verset 17. Je troquerai bien mon petit résumé contre ce verset 17. J'aurais dit, avec Christ, nous sommes cachés en Dieu, revêtez-le en toutes circonstances. On pourrait tout aussi bien dire, verset 17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce à lui par Dieu, à Dieu le Père. C'est volontiers aussi là un résumé qu'on reprendrait. C'est pas juste dans le cadre de la communauté, c'est le contexte de ces deux trois versets, mais aussi dans le cadre de ce qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu, où il nous place. Si vous avez ce livret dans vos affaires, c'est pour que le travail continue dans chacun chez vous. Il y a un côté un peu frustrant avec les groupes d'application, c'est qu'on n'a toujours pas assez de temps. Il faut continuer à travailler ça de cœur à cœur, dans le lieu secret avec Dieu. C'est très important. C'est là que ça se joue. Pas devant les autres, pas avec les autres. C'était le sens du temps prière individuel tout à l'heure. Là où il n'y a personne, aucun autre témoin que votre Père Céleste dans le lieu secret. Et c'est vraiment là que tout se joue. C'est là qu'on apprend à être authentique devant Dieu et devant les hommes. Continuons ce travail ensemble, chacun chez soi. Cette semaine, j'ai eu un mail d'une sœur de l'Église qui est fraîchement convertie, qui s'est faite baptiser il n'y a pas longtemps, Marie-France, qui a raconté l'histoire, je pense qu'elle a repiqué quelque part, peut-être que certains l'ont vu. Super histoire d'un responsable d'évangélisation de son église qui, avec son fils de 10 ans et puis quelques autres motivés dans l'église, il y a toujours un noyau comme ça dans chaque église, s'était dit on va toutes les semaines proposer de donner des tracts, distribuer, mais pas sous les essuie-glaces, aux gens, voilà, donner le partage de l'évangile en disant waouh, tournez-vous vers Christ. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans ce groupe, et un jour, un samedi où il le faisait, de la pluie battante, quoi. Un temps horrible. Et il s'est dit, on annule. Donc il appelle le groupe, c'était 4-5 personnes comme ça, et son fils lui dit, papa, il faut y aller, quoi. C'est pas parce qu'il pleut que. Il dit, écoute, vas-y si tu veux. Et le gamin, là, il est parti avec sa pile, et puis il donnait aux gens qui étaient encore dans la rue. Et il arrive au bout d'une petite rue dans leur ville, où il lui restait juste un truc, il a déjà tout mouillé, il était trempé, et il sonne à la porte de cette petite maison au bout de la rue, rien. Et il sonne encore, il dit, je le donnerai à quelqu'un, je ne rentrerai pas les mains pleines, et plusieurs fois. Et en fait, il y a une petite vieille qui lui ouvre, toute, qui a l'air triste, etc., qui lui dit, qu'est-ce que tu veux, mon garçon, qui a l'air très triste. Et il lui dit, moi je suis tout content parce que j'appartiens à Dieu, Jésus-Christ m'a pardonné, je veux vraiment que vous sachiez ça. Il lui laisse ça et c'est tout. Et une semaine après, dans un culte, il y a la vieille dame qui se lève et qui dit, désespérée par la perte de mon mari il y a 2 ans, j'ai broyé du noir pendant 2 ans. Et malgré mon âge avancé, j'ai décidé, la semaine dernière, de monter dans mon grenier, de pendre une corde et de me pendre à cette corde, parce que j'avais plus aucun espoir. J'avais la corde autour du cou quand j'ai entendu sonner à la porte. J'ai serré la corde. Je me suis dit, de toute façon, ils ne vont pas s'inquiéter. Mais la sonnette continue à sonner. Alors, j'ai desserré la corde. Je suis descendu. J'ai vu un petit garçon, là, rien du tout. qui me tend une invitation à aimer Dieu parce que Dieu m'aime. Parce que je suis l'objet d'amour de Dieu. Le Père, il a pleuré. Il a pleuré, pleuré de joie, mais pleuré de honte aussi. C'était un peu les deux ensemble. Chaque conversion à l'évangile de Jésus-Christ, même la conversion d'une vieille dame rabougrie au bout de sa vie, qui n'a plus d'espoir et qu'on ne voit plus au bout d'une rue miteuse, même ça, c'est le signe visible que Dieu est encore en train d'accomplir sa mission dans le monde. Même ça, ça peut être ridicule aux yeux du monde, c'est glorieux aux yeux de Dieu. Dès le début de notre cheminement dans Colossiens, on a vu la joie de Paul de voir que cet évangile porte déjà des fruits dans ceux qui croient. Et on le voit un petit peu dans cette vieille bonne femme qui vient et qui est déjà changée en une semaine. La foi, dimension verticale, l'amour, dimension horizontale, en signe de croix pour tous les saints, et la vie sainte, les œuvres bonnes que produit l'évangile, la croissance. On a une large confirmation de cette croissance des œuvres bonnes dans le don, en réponse dans le chapitre 3. Ce sont les effets de l'évangile. Mais Paul va conclure maintenant, et il y a encore quelque chose de très important à dire concernant notre mission, en réponse à la mission. Il y a la nécessité de proclamer Christ avec le reste de l'Église, à la suite de Paul, dans notre temps et dans notre espace, dans notre génération. C'est ce que Paul communique d'une manière très particulière dans le texte que Pierre va nous lire juste maintenant. Il fait une liste. Tu as un peu lu déjà. Il fait une liste. Il y a plein de noms. Plein de noms dans ce dernier chapitre. Il fait une liste. Et il ne fait pas une liste juste pour dire « j'ai oublié comment on fait une liste de course ». Il fait une liste avec une intention derrière. Un peu comme s'il disait à ses lecteurs « Prenez conscience du réseau des proclamateurs de Christ et prenez votre place dans le réseau. Faites ça. » Alors on va laisser Pierre nous lire le texte pour qu'il nous montre que par l'évangile, Dieu nous intègre dans sa mission et qu'ensemble nous sommes invités à proclamer Christ. Tu viens nous le lire, si peut-être, mais avant que tu lises, on va prier. Seigneur, merci pour l'histoire de ce garçon de 10 ans. Ce jour gris de pluie battante, et pour cette petite bonne femme que personne ne voyait, elle se voyait même plus elle-même, et qu'on va revoir au ciel, dans la gloire. Merci pour ton plan qui continue. Et Seigneur, nous voulons te demander que tu disposes nos cœurs à t'entendre maintenant par cette lecture, que tu nous rendes avides de l'écouter en vue d'y obéir. Donne-nous la conviction que nous avons notre place dans le réseau. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous saisisses par ton esprit. Et alors que je m'apprête à ouvrir la bouche, que tu me donnes d'être fidèle à toi. Alors que nous nous apprêtons à écouter ta parole, que tu nous rendes désireux au milieu de toute chose de t'obéir et de te plaire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Priez avec fidélité. Demeurez vigilant par la prière adressée à Dieu avec reconnaissance. En même temps, priez aussi pour nous, afin que Dieu nous accorde une occasion favorable de prêcher sa parole, d'annoncer le secret du Christ. En effet, c'est pour cela que je suis maintenant en prison. Priez donc pour que je puisse parler de ce secret et le faire clairement connaître, comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers les non-chrétiens, en profitant de toute occasion qui se présente à vous. Que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. Tychique, notre compagnon, ce cher frère et fidèle collaborateur au service du Seigneur, vous donnera toutes les nouvelles qui me concernent. Je vous l'envoie donc en particulier pour vous dire comment nous allons et pour vous réconforter. Il est accompagné par Onésime, le cher et fidèle frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, qui est en prison avec moi, vous adresse ses salutations, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Vous avez déjà reçu des instructions au sujet de Marc. S'il vient chez vous, accueillez-le bien. Jésus, surnommé Justus, vous salue aussi. Ces trois hommes sont les seuls chrétiens d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été un grand réconfort pour moi. Epaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous salue. Ce serviteur de Jésus-Christ ne cesse pas de prier avec ardeur pour vous, afin que vous demeuriez ferme, spirituellement adulte, et bien décidé à faire en tout la volonté de Dieu. Je peux lui rendre ce témoignage. Il se donne beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, notre ami le médecin, et Démas vous saluent. Soyez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nympha et l'église qui se réunit dans sa maison. Quand vous aurez lu cette lettre, faites en sorte qu'on la lise aussi dans l'église de Laodicée. Lisez vous-même celle qu'on vous transmettra de là-bas. Dites à Archip, prends soin de bien accomplir la tâche que tu as été chargé au service du Seigneur. C'est de ma propre main que j'écris ces mots. Salutations de Paul. N'oubliez pas que je suis en prison. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
C'est la parole de Dieu. Il l'a inspirée sous la plume de Paul par son esprit. Il l'a préservée par son esprit au travers des âges. Il inspire notre écoute par son esprit pour nous rendre capables par son esprit de l'appliquer. Dans les premiers versets de ce chapitre, versets 2 à 6, Paul nous invite à être intégrés dans la mission de l'Évangile. Il nous montre que c'est en priant et en agissant que nous le faisons. Et tout d'abord, il nous invite à prier avec reconnaissance, souligné, gras, italique. Et tout commence par la prière. Et pour être plus précis, Paul dit, dans ta version c'est avec fidélité, c'est avec persévérance qu'il invite à le faire. Chaque moment passé dans la prière révèle, dit quelque chose de ce que j'ai compris sur la suprématie de Jésus-Christ, sur la perfection du plan de Dieu dans le monde. C'était déjà le sens de la prière de Paul, dès le verset 9 du chapitre 1, c'est comme encore le sien ici au verset 12, il y a cette notion-là de prière avec persévérance. On ne peut pas prétendre avancer dans la foi, rester enraciné en Christ, le connaître et le servir lui seul, résister aux assauts des systèmes et des dieux dans ce monde, produire la vie sainte qui lui plaît. On ne peut pas vivre un vrai décentrage de nous-mêmes pour nous recentrer sur Dieu. On ne peut pas vivre une vie communautaire digne de Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, où l'amour est le lien de la perfection, sans vie de prière. On ne peut pas vivre ça sans vie de prière. Ma vie de prière dit quelque chose de ce que j'ai compris de Dieu, de sa souveraineté et de sa souveraineté sur ma vie. On ne peut pas espérer voir les gens se tourner vers le Dieu qui réconcilie à la croix si par ailleurs on n'a pas de vie de prière pour eux. Si on demande à Dieu de nous préparer à cela, si on demande à Dieu de nous rendre capables de le faire. Je montre que Dieu est souverain sur ma vie, à ma manière de vivre ma vie de prière. On va avoir un temps tout à l'heure où on pourra faire le bilan de santé de notre vie de prière. Il y a du travail, mais on est invité là à le faire. Au commandement de la prière, vous voyez que Paul associe l'idée de la reconnaissance. Et la question, c'est est-ce que c'est normal de le faire? Et c'est tout à fait logique parce que notre prière doit être littéralement imbibée et débordée de reconnaissance. Quand on presse sur notre vie de prière, il doit sortir de la reconnaissance. Paul est reconnaissant depuis le début de la lettre. Ses collaborateurs sont reconnaissants. Nous rendons grâce, il dit depuis le début de la lettre. Il le répète dans sa lettre et il demande maintenant que les Colossiens, que ses lecteurs et que nous, au travers des Colossiens, soyons reconnaissants dans notre vie de prière. Je vis ma vie de prière dans la reconnaissance, à partir du moment où je contemple constamment la perfection de Dieu dans l'univers, dans son plan, dans ma vie, en Jésus-Christ, soyant tout en reconnaissant. Qu'est-ce qu'on a souvent du mal à rendre grâce, à remercier, à être reconnaissant à Dieu? Et c'est un constat douloureux. On a décidément du mal à voir qu'on a tout pleinement en Christ. Et du coup, on a du mal à être reconnaissant naturellement dans notre prière. On demande beaucoup plus de choses qu'on ne reconnaît beaucoup plus de choses. Je fais exprès d'utiliser ce verbe. Je joue souvent sur ce verbe, sur l'idée de reconnaissance. Il peut y avoir deux significations à ce mot. Reconnaître, être reconnaissant, c'est savoir reconnaître Dieu dans ce qu'il fait. Et le plus je reconnais Dieu dans ce qu'il fait, le plus je suis reconnaissant, le plus je lui rends grâce de ce qu'il fait. On a souvent du mal à remercier pour des biens spirituels et éternels. Verset 1 à 4 du chapitre 3, par exemple. Merci parce que Seigneur, je suis caché en Christ. Merci parce que quand tu reviendras dans ta gloire, je paraîtrai avec toi, Jésus-Christ. On a beaucoup plus de mal à remercier Dieu pour ça que pour des biens matériels. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu vas me donner ça, ces choses matérielles qui passent, qui vont flétrir, redevenir la poussière. Et vraiment Seigneur, je te demande de tout mon cœur que tu me donnes cette voiture, ce travail, cet argent, cette situation dans ma vie affective. Seigneur, je te demande vraiment ça. On a du mal à être reconnaissant pour les choses éternelles qui durent toujours, mais on n'a pas de mal à demander des choses matérielles qui durent un temps. C'est douloureux, ça. Comme si l'urgence, c'était les choses qui passent. Mais l'urgence, c'est pas les choses qui passent. Verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Veillez-y en remerciant. Paul ouvre une piste, juste après, sur le sens que ça pourrait prendre, la couleur que ça pourrait prendre dans notre vie de prière, qui s'ouvre aux autres, qui prend en compte avec persévérance le plan de Dieu. C'est une décision. Dans ma vie de prière, Seigneur, je décide de voir ce que tu fais. Et je décide de te remercier. Juste au verset qui suit. Par exemple, on devrait dire, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ dans lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je le dois. Voilà un exemple de persévérance dans la prière. Seigneur, ça fait tellement toi que je te prie pour cette maison qu'on aimerait acheter avec ma femme. Tu vois qu'on en a besoin. Tu vois que le beau jardin aussi. Tu vois qu'on a les moyens maintenant parce que tu nous as bénis, tu nous as donné un salaire à tous les deux. Hein? Seigneur, je te demande que tu bénisses ce missionnaire qui est à l'œuvre au Togo. Je te demande, Seigneur, que des âmes se tournent vers le Dieu vivant et vrai, pour qu'il paraisse avec Christ dans la gloire lorsqu'il reviendra. Vous voyez la différence? C'est deux choses vraiment différentes. C'est deux choses vraiment différentes. Paul montre là comment s'applique notre vie de prière dans les choses qui sont vraiment urgentes. Vraiment urgentes. Et Paul suggère très fortement que agir va avec la prière et agir en ouvrant la bouche. Verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. C'est en fait ça, plus proche de l'original, et assaisonné de sel. C'est l'expression, hein, assaisonner de sel. J'aime bien la formule de... T'as quoi comme version?
Très bonne question.
Ça doit être français courant, je pense.
Français. Ouais.
C'est sympa, ça explicite l'idée de assaisonner de sel. J'aime bien l'expression. Afin que vous sachiez comment vous devez répondre avec votre bouche à chacun. Agir en ouvrant la bouche. Le réseau dont Paul parle ici, dans tout ce chapitre, mais qu'il a en tête tout le temps quand il écrit, Paul considère que les Colossiens font aussi partie. Les Colossiens, en tant qu'Église de Jésus-Christ, font partie du réseau. La prière ne peut pas rester une prière comme au couvent ou au monastère.
Il s'est consacré à la prière.
Elle doit s'accompagner d'actions dans le monde. et on doit conjuguer les deux avec bonheur. Nous faisons partie du réseau des propagateurs de l'Évangile jusqu'au bout du monde et de l'histoire si nous ouvrons la bouche. Alors, comment est-ce que notre parole doit être justement ? Elle doit être d'abord accompagnée de grâce. Quelle belle précision de la part de Paul. Parce qu'il est possible, sur la base de surtout toute l'assurance massive qu'on a entendue dans Colossiens, de confondre, une assurance éternelle avec une arrogance personnelle. On est tellement sûr qu'on devient des rouleaux compresseurs. Que votre parole soit accompagnée de grâce. Confondre l'assurance éternelle et l'arrogance personnelle, ça ne porte pas de fruits. Seule la parole accompagnée de grâce est à la hauteur de la grâce et parle bien de la grâce. Que votre parole soit accompagnée de grâce, savoir écouter l'autre, pas être sans avoir en train de balancer des vérités éternelles alors qu'il n'en est pas encore là. On ne se compromet pas lorsqu'on prend le temps dans la grâce d'écouter la problématique pour faire arriver dans la vie de celui qui chemine la grâce éternelle de Dieu. Que votre parole soit accompagnée de grâce. On a avant tout des personnes et pas des concepts. Et il dit aussi, justement, que votre parole soit assaisonnée de sel. Et je pense qu'on a là la notion du goût et de la pertinence de la parole. Accompagner notre parole de grâce, ça ne veut certainement pas dire qu'on doit être mou, monotone, morne, triste et incompréhensible comme une messe en latin. Le sel, que votre parole soit accompagnée de sel, assaisonnée de sel, c'est la saveur de notre propos. Notre capacité à garder le fond tout en adaptant la forme. On peut adapter la forme si on garde le fond. Parce qu'on est sûr que notre espérance a beaucoup, elle a une pertinence. Une pertinence pour l'autre, parce que chez moi, bon, je me délecte de la grâce, du salut en Jésus-Christ. Elle a bon goût pour moi. Et je veux que celui qui est en face de moi, avec qui je parle avec grâce, ait envie que sa vie soit assaisonnée de sel par la grâce. Que votre parole soit assaisonnée de sel. Il est question aussi, je pense, de la pertinence de la parole, de la grâce, de l'évangile, quand on témoigne de Jésus-Christ. Dans un monde de plus en plus insipide et uniforme, et j'espère que ça, vous le mesurez, le canal médiatique est tellement puissant, pour formater les esprits, qu'on est de plus en plus dans un monolithe de pensée. Un bloc à la pensée unique. En termes d'éthique, en termes d'espérance, en termes de sens de l'homme, etc. Et dans cette espèce de ce que j'appelle le grand magma puant, parce qu'en fait, tu ne sais plus quoi tu adresses, parce que tout le monde est d'accord, tout le monde est ensemble, dans une sorte d'humanité vague, et du coup, tu essaies de proposer quelque chose de pertinent, et ça rentre dans une sorte de grand magma. Je dis puant parce qu'il sent mauvais. C'est quelque chose qui sent mauvais. Vous là, la différence avec assaisonner de sel. Que votre parole soit assaisonnée de sel. Parce que je suis sûr que dans ce grand magma puant, beaucoup de personnes aspirent à la saveur de l'évangile, à la pertinence du sens de l'évangile pour le salut de quiconque croit. Verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Être intégré dans la mission de l'Évangile, c'est d'abord prier, ensuite agir en ouvrant la bouche. Être intégré dans la mission de l'Évangile, c'est faire partie d'un réseau mondial. Et on pourrait l'ajouter historique, dans le sens qui se répand dans l'histoire. D'abord, il faut qu'on prenne conscience, encore aujourd'hui, de ce que Paul dit aux Colossiens à son époque. Faire partie du réseau, c'est d'abord être au bénéfice du réseau, d'un réseau qui est actif pour l'Évangile. Tous ceux qui combattent pour vous. On en a parlé dans notre petit groupe, dans notre temps de prière, et j'en entends souvent parler autour de moi, cette idée qu'il y a des personnes qui luttent et qui souffrent pour notre croissance spirituelle, pour notre salut. Et c'est un petit peu ce que Paul leur dit là. C'est très encourageant parce que Paul, il ne se met pas seul là, il se met au milieu de tout un réseau de personnes. Les Colossiens sont au bénéfice du ministère de ces personnes. Alors vous voyez par exemple, l'exemple par excellence, c'est au verset 12, Epaphras, dont il est déjà question au chapitre 1. Mais il est aussi question dans le reste du texte, du verset 8, avec Tichique, qui est le frère bien-aimé, le compagnon, verset 8, « Je vous l'envoie tout exprès, pour que vous connaissiez notre situation et qu'il vous console vos cœurs. » C'est-à-dire, c'est des gens qui luttent, qui viennent à vous, pour que vous sachiez, vous priez pour nous, pour ce qu'on vient de voir dans les versets qui précèdent. On peut relire ce qui concerne Epaphras, que j'aime beaucoup, verset 12. C'est votre compatriote. Il vous salue. Et qu'est-ce qu'il fait ? Serviteur de Christ Jésus. Il ne cesse de combattre, même mot qu'agoniser pour Paul. Hein. Il agonise pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Je lui rends témoignage, ce témoignage qui prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée. Et pour se dire à la police des villes voisines. C'est par Epaphras, par ses instructions, chapitre 1, qu'ils ont entendu parler de l'Évangile. C'est tellement fort et tellement puissant que Paul, dans le déroulement, quand il dit « Marchez en Christ d'après les instructions que vous avez reçues », il a en tête ce que Epaphras leur a donné. C'est Epaphras encore qui lutte avec insistance. Et c'est très intéressant de voir pourquoi il lutte. Il agonise dans ses prières pour qu'ils aient de la persévérance et une clarté de pensée, pour qu'ils discernent leur mission, pour qu'ils sachent un vrai sens des priorités, que les Colossiens ne se cassent pas la tête avec des choses matérielles dans leur vie de prière et dans leur vie personnelle, parce que sinon ils tombent dans, chapitre 3, la cupidité qui est une idolâtrie, mais qu'ils aient le sens renouvelé des priorités, pour qu'ils sachent et qu'ils connaissent la volonté de Dieu dans son plan parfait. Les amis, dans les coulisses, il y a des gens qui agonisent pour vous dans la prière. Vous êtes au bénéfice du ministère d'autres personnes, des Epaphras, qui font ça pour vous. Et il faut le savoir. Il faut le savoir pour être reconnaissant. Vous êtes les fruits de l'Évangile, vous êtes le fruit de l'Évangile par des personnes que Dieu a mandatées. Pour vous l'apporter, vous faire croître. Verset 13, que j'aime beaucoup. Je reviens dessus. Je lui rends témoignage, il prend beaucoup de peine pour vous. Comment est-ce qu'on prie de nouveau ? Parce qu'il agonise dans ses prières pour eux. Comment est-ce qu'on agit ? Comment est-ce qu'on associe les deux choses ensemble ? Comment est-ce qu'on intègre la croissance des autres dans notre prière? Regardez autour de vous, prenez conscience de ce que vous connaissez déjà un petit peu. Est-ce que, comme Epaphras, à votre tour, vous agonisez, vous suivez dans la prière, pour qu'ils grandissent dans la persévérance et la clarté de pensée, pour discerner la volonté de Dieu? Parce que vous voyez que ce n'est pas tout. Dans cette série, on a aussi Marc, le cousin de Barnabas, on a Luc, le médecin, vous les avez notés eux. Hein, c'est des rédacteurs des évangiles, des personnes qui ont agonisé à leur manière pour qu'on ait sous les yeux l'évangile et que par l'évangile, on soit rendu capable à nous, à notre tour, de rentrer dans ce réseau. Parce que être partie active du réseau, c'est la suite logique. On est persuadé et on veut persister et on veut combattre à notre tour. Oh, moi, ça m'a beaucoup remis en question. Ne serait-ce que pour les frères et sœurs auprès desquels Dieu m'a placé, son troupeau, est-ce que j'agonise suffisamment pour eux dans mes prières, pour les voir grandir en Christ et avoir le bon sens des perspectives? Parce que c'est dans ce contexte général que Paul donne des dernières consignes aux Colossiens. Il veut qu'ils repartent clairement persuadés de la mission de Dieu dans l'Évangile, de la perfection de Christ, de la nécessité de persister en lui, de résister aux affronts du monde et de combattre, mais aussi d'agoniser pour la parole, pour l'Évangile, au niveau local, autour d'eux, dans leur génération. Si c'était la mission des Colossiens à la suite de Paul, c'est notre mission dans notre génération. Est-ce que ça rejoint un petit peu ce que Packard dit dans cette idée que dans sa souveraineté, Dieu a choisi les personnes pour être sauvées, mais dans sa souveraineté, Dieu a décidé que ce serait par la proclamation de l'Évangile que ça se passe dans chaque génération. Un petit mot de conclusion sur ce petit texte qui nécessiterait qu'on voit plus dans les détails. Mais peut-être que si on lit dans la notion du réseau, avec cette lettre qu'on va donner aux Laodiciens, les Laodiciens qui nous donnent une lettre, et on est ensemble dans le même réseau, ça vaudrait le coup. En conclusion, on doit s'encourager à proclamer Christ, je pense, dans le réseau. Et l'Église n'a rien d'un bâtiment morne et triste ou froid qui attend dans la pénombre que Christ revienne, ou la femme de ménage, peu importe, c'est pareil. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est le lieu privilégié pour que le ministère de l'Évangile continue dans l'histoire à porter des fruits. À la suite de Paul, l'Église a pour mission. Rappelez que Christ est le chef de l'Église, on l'a vu, hein, et Paul agonise pour cette Église. Cette Église a pour mission 4 grandes choses que j'aimerais vous livrer encore. D'abord, de présenter fidèlement la parole de Dieu dans toute sa glorieuse richesse, avec pour cœur l'Évangile. Ce qui me conduit au deuxième point. L'Église a pour mission, dont nous faisons partie, de proclamer Christ, d'avertir et d'enseigner en toute sagesse pour que chaque chrétien soit solide dans sa foi. Pas juste faire des conversions, entre guillemets, laisser croître. Troisièmement, l'Église, dont nous faisons partie, a pour mission de former les croyants pour qu'ils soient toujours encouragés par ces choses, unis dans l'amour et habités de toujours plus de profondeur et de compréhension, pour être capables à leur tour de faire ça. Plus t'es mûr, plus t'es capable de transmettre ça. Quatrième point, l'Église a pour mission d'atteindre par l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ceux qui sont encore pour le moment exclus de la réconciliation de Dieu. Et ceux qui pourraient même se sentir indignes de cette réconciliation, mais que Dieu veut atteindre par son Évangile. Voilà les 4 points de la mission de Dieu. Et Paul était tellement convaincu de ça, convaincu que c'est par l'Église que Dieu fait ça, qu'il acceptait avec joie de souffrir pour l'Église. On l'a bien vu hier. Alors, à nous, à sa suite, d'accepter de souffrir. À nous, à sa suite, d'accepter de souffrir. Si on est persuadé que Christ est vraiment la seule chose valable à vivre au-delà de tout ce qu'on vit dans la terre, il faut qu'on soit prêt à souffrir pour Christ et pour que Christ soit proclamé. C'est le motif de ceux qui portent Christ dans un monde qui le rejette. On a l'exemple d'Onésime au chapitre 9, on a l'exemple de Marc au chapitre 10, on a l'exemple de Démas au chapitre 14. Onésime, c'est cet esclave qui s'est échappé de la maison de son maître, qui n'a pas tenu le coup dans sa situation et qui a confondu peut-être la liberté de Christ avec sa liberté dans l'ordre créationnel. C'est la lettre à Philémon qui nous en parle. Mais là, vous voyez qu'il est devenu souffrant avec Christ dans le ministère. On a aussi Marc. C'est très certainement celui dont il est question dans Actes et qui a été l'objet d'une discorde profonde entre Paul et Barnabas. Parce que Marc ne voulait pas continuer. Marc a eu un moment de faiblesse. Et Paul, lui, s'est opposé à ça. Faiblesse, etc. Il y a eu un clash important à cause de Marc. Mais Marc est celui qui a rédigé l'Évangile. Et Marc est celui qui, malgré ses limites, est resté dans le réseau. Plus dramatique, il y a Démas. Vous voyez comment il est présenté au verset 14 ? Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. C'était certainement un collaborateur assez proche de Luc et de Paul. Et dans sa dernière lettre, la deuxième lettre de Paul à Timothée, Paul dit à Timothée, « Démas m'a abandonné par amour pour ce monde. » Il n'a pas supporté de souffrir pour la cause de l'Évangile. Terrible. On ne sait pas ce qui est devenu avec Démas, mais c'est la dernière lettre de Paul qui nous dit ça. Ce n'est pas un hasard si Paul nous donne ses noms. On n'est ni apôtre, ni surhomme. On a nos limites, mais sur la base solide de son ministère d'apôtre, enraciné, fondé sur Christ, qui est la tête de l'Église, nous sommes appelés à continuer ce ministère, jusqu'à ce que Dieu décide que sa mission touche à son terme. Et quand Dieu décidera que sa mission touche à son terme, notre mission touchera à son terme. En attendant, en ce moment, nous sommes invités à proclamer Christ. Et avant qu'on arrête, j'aurais juste voulu proposer quelques mots de conclusion générale sur tout ce cheminement dans Colossiens. On rappelle le questionnement de Francis Cabrel au début. On a fait des clochers, des cathédrales pour toucher les étoiles, les nuages. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Qu'est-ce que nous, les hommes, on pouvait faire de mieux? Colossiens nous montre que c'est Dieu qui fait quelque chose pour nous. C'est quelque chose que Cabrel n'a pas compris. Ça ne nous empêche pas d'avoir ce questionnement que même Moïse avait, où il priait « Enseigne-nous, Seigneur, montre-nous ce que tu fais. » Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il demande un autre enseignement dans ce même psaume, psaume 90. Je vous le cite, relisez-le en entier, il est génial. Il dit « À cause de nos limites, enseigne-nous à bien compter nos jours. » pour que nous puissions conduire notre cœur avec sagesse. Regardez comme c'est similaire avec le verset 5, « Rachetez le temps, faites un bon usage du temps. » Sachant nos limites, sachant ce que Dieu fait, nous sommes invités à conduire nos cœurs avec sagesse dans le peu de jours qu'il nous donne sur cette terre. Et on est obligé de prier cette prière pour Dieu au regard de tout ce qu'on a vu dans Colossiens. On sait qu'on est des grains de poussière et qu'on est limité et qu'on est pécheur. Et on sait aussi que Dieu nous pardonne. On sait qu'on ne pourra pas jamais faire le tour, qu'on ne comprendra jamais tout. On n'est pas à Dieu, nous. Mais on sait aussi que notre Dieu est Dieu au-dessus de tout. On connaît la suprématie totale de Christ sur la base de Colossiens. On sait qu'il est en train de faire dans le monde et dans l'univers une chose magnifique, ça s'appelle la réconciliation par le sang de la croix. On sait aussi comment il le fait, par la progression de l'Évangile. Et pour être plus précis, par la progression de l'Évangile, par des hommes et des femmes qui ont été sauvés par l'Évangile. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas sur la terre. Et ces cinq choses, on les sait. La question n'est donc pas pour nous de savoir ce que fait Dieu, parce qu'on le sait. La question, c'est de savoir si à quoi on occupe notre temps, nos jours, notre énergie, vers quoi et vers qui on oriente nos vies, nos projets de vie, comment on intègre dans nos projets de vie le grand projet de Dieu pour le monde. La vraie sagesse aux yeux de Dieu, c'est de prendre la bonne mesure de ça, d'accepter d'accomplir notre mission sous son regard et dans sa main. Et Moïse, dans sa foi en Dieu, conclut ce psaume 90 en priant que la bienveillance de Dieu soit sur nous, affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Vous voyez la conjugaison extraordinaire entre ce que Dieu fait, ce que Dieu fait par nous, pour nous, et ce qu'on fait avec nos mains. C'est tellement vrai à la réponse de Colossiens. À la fin de Colossiens, on va prier ensemble. À faire nous l'œuvre de nos mains. Je vous invite à un temps de prière basé sur ce texte et peut-être plus spécifiquement sur les versets 2 à 6. Prenons un temps de silence que je conclurai tout à l'heure. Laissons le Saint-Esprit nous consacrer à notre mission, dans la grande mission. Entre le psaume 90 de Moïse et la lettre aux Colossiens de Paul, Seigneur, nous voulons te remercier pour la perfection de ton œuvre à la croix. Nous te remercions parce que tu es depuis toujours en mission dans ce monde. Et tu as préparé d'une manière tellement parfaite les choses, à l'époque déjà de Moïse et bien avant. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous réjouir que, grâce à notre identité nouvelle en Christ, parce que tu nous as réconciliés avec Christ et que tu veux réconcilier d'autres personnes par Christ avec toi, nous pouvons prendre la juste mesure du temps que tu nous donnes. On peut bien mourir demain, en fait. On peut bien mourir le mois prochain. Aide-nous à bien compter nos jours, afin que nous conduisions nos cœurs avec sagesse. Tu vois nos limites, tu nous connais mieux que quiconque. Tu sais, Seigneur, les choses sur lesquelles nous voulons progresser. Nous pouvons progresser, nous devons progresser. Et nous sommes tellement heureux parce que par l'œuvre ta parole dans nos cœurs, ce week-end à l'aide de Colossiens, tu veux permettre que l'œuvre de nos mains soit affermie. Pas grâce à nous, grâce à ce que tu fais par nous et en nous. C'est pourquoi ensemble, Seigneur, nous voulons te supplier. Affermie l'œuvre de nos mains. Oui, affermie l'œuvre de nos mains. Pour la gloire de ton nom, dans l'attente, bénis. Tu retrouves.